notes on me. Oh, did he not? He don't know about me. Okay, low kiddy man, and no Emmy, and then glow belly fandom and roll for me.
Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Crossroads. Du coup, c'est là, on est au mois de juin.
C'est la sixième émission.
Du coup, nouveau format, encore une fois, on va essayer d'aborder un nouveau sujet.
Donc ce soir, nous allons continuer ce nouveau format d'émission où chaque émission est consacrée à un thème précis en lien avec la musique et les différents ponts qu'on peut faire. Et ce soir, nous allons donc parler des différents formats musicaux. Format à entendre au sens, dans un premier temps, du format matériel. Donc le format matériel, c'est au début les vinyles, puis après le micro CD, avec des à côté comme qui a pu être un temps, même si ça peut revenir d'une façon ou d'une autre, la cassette, etc., etc. Il faut bien voir que, c'est ce qu'on peut vite se rendre compte dès qu'on creuse un peu le sujet, c'est que les différents formats, donc purement physiques, accompagnent les transformations et les manières d'écouter la musique elle-même. D'où, par exemple, va émerger très vite le format album, dont tu nous parleras plus longuement ensuite.
C'est la question qu'on se pose ce soir, et qu'Alexis a essayé de définir assez brièvement ici, c'est comment, en fait, ces différents formats de musique, que ce soit le CD, le vinyle, voilà, ou la cassette, même à une époque, comment ça influence, en fait, notre façon d'écouter de la musique. Bon, je vais essayer de ne pas trop utiliser un consommer, parce que, effectivement, on aura plus tendance à parler de consommation, mais la musique reste un art, et donc, du coup, je pars du principe qu'un art ça se consomme pas et que du coup ça se cultive, mais bon, ça c'est des petites remarques personnelles de ma part. Et surtout, donc voilà, comment on va écouter. Et du coup, l'album, alors il est pas arrivé tout de suite, c'est-à-dire que ça n'a pas toujours existé un album, même si on prend les pièces, bon, si on accepte du coup toutes les pièces musicales classiques qui sont très longues, tout ça, donc c'est des formats quand même particuliers. Le reste c'était surtout des singles en fait, des titres, voilà, une seule musique, un seul titre, avec des singles qui sortaient, avec quelques chanteurs ici et là. C'est, faut attendre du coup vers les années 50 et Columbia Records du coup, qui vont amener une évolution physique sur le vinyle, et qui va passer à 25 et 30 cm, et après du coup on aura le 33 tours, tous ces trucs là, et donc ça permettra de donc forcément mettre plus de contenu sur un même support. Donc c'est ce qui a permis du coup de publier des œuvres classiques mais en entier sur des vinyles, du jazz aussi, ou des bandes originales de films. Encore une fois, c'est aussi ça fait partie aussi des musiques qui sont écoutées, ce qu'on appelle le LP ou long play, à l'inverse du EP qui est Extended Play, donc pour quelque chose de plus court. Donc ça va vraiment décoller plutôt vers les années 60. Parce qu'en fait, les artistes, ils vont tirer effectivement une sorte de profit de cette liberté en fait, de pouvoir enregistrer un album, c'est-à-dire de faire des albums concept, et notamment ça va se trouver dans le prog, hein, dont on a parlé la dernière fois. Voilà, c'est typiquement le rock des années 60 aussi. Historiquement, c'est aussi utile pour les labels, parce que notamment dans les années 60-70, ils vont profiter parce que les albums... Il y a plein de hits potentiellement dessus, et donc du coup sortir du coup des petits vinyles dessus, des petits disques, ou aussi en tout cas des hits sur les radios, et donc continuer la diffusion de groupes et donc de morceaux, et donc faire plus de ventes, etc., etc. Donc l'album a aussi cette utilité là historiquement. Après, l'album implique quelque chose, c'est ce côté un peu storytelling, parce que quand on écoute un album, en fait ça implique de s'asseoir, d'écouter, le côté presque religieux dans cette pratique là, dans cette manière là qu'on retrouve encore aujourd'hui chez certains mélomanes. Il y a l'objet physique, il y a le côté où on est content, on va poser l'objet physique, notre vinyle sur la platine, remettre le diamant sur le disque, voilà, il y a le petit grain, enfin il y a tout un tas de trucs, ça fait, il y a un côté rituel en fait quand on va venir écouter ça. C'est aussi un moyen de légitimer, comme le dirait du coup, l'a dit Laurent Garnier, je vais y arriver. Ça permet de légitimer l'artiste aussi, qui permet de, ça participe à son aura.
L'album, c'est un peu finalement le format roi pour un groupe, pour un artiste. C'est que vous aurez dans la carrière d'un artiste, peu importe comment ça peut commencer par des singles. Par exemple, vous êtes très bon, par exemple, si on prend la musique qui est consommée dans le top 50 et tout, très souvent c'est des gens qui vont avoir une carrière où ils vont être repérés, vont faire un ou deux singles, vont tenter l'amorce de l'album, et on se rend compte qu'en fait, bah, sur un format long, ça marche pas du tout, et ça restera un hit peut-être excellent, mais d'un seul été. Et c'est là où on voit, en tout cas, comment peu à peu, il y a une espèce de construction sociale autour de l'album. On est parti d'un format qui était peut-être plus une réponse, une possibilité ouverte par la technologie, et qui finalement est devenu quelque chose de, entre guillemets, sacralisé, où c'est un passage obligé pour tout groupe. Alors, bien évidemment, des tas de groupes ont subverti ça, ont tourné autour, ont tenté de s'en détourner, mais qu'en tout cas, dans la façon de consommer la musique, va dire, c'est simple, si vous allez sur Internet, vous tapez des listes pour commencer à écouter de la musique, on va vous conseiller des listes d'albums, de grands albums. Vous allez sur, par exemple, 4chan, le sous-forum Mu, c'est des listes d'albums qui sont aussi, vous allez sur Rature Music, le top des charts, c'est pas des tops de groupes, c'est des tops d'albums. Et ça montre bien que toute la place spécifique que peut avoir au niveau de... dans les représentations sociales, l'album en général.
Effectivement, c'est malgré, en fait, on pourrait penser qu'il y a une perte de vitesse actuellement de l'album, comparé du coup avant avec justement encore une fois ce rock progressif, ou même le métal, hein, qui sacralise l'album à fond. Il est toujours omniprésent en réalité, parce que, pareil, là pour citer quelqu'un d'autre, du coup, Needle Drop pour ceux qui connaissent, ou Anthony Fantano qui a un vidéo sur YouTube qui fait des critiques, musique, qui propose du coup des propres intéressants, et justement ce qu'il dit, c'est quand on arrive à un concert. Est-ce que du coup on va attendre d'avoir fait 5, 6, 7, 8 singles et puis ensuite aller faire un concert avec 8 singles qui ont vraiment très bien marché d'un coup? Bah non, en fait, on va quand même faire un album derrière pour avoir des morceaux qui vont venir un peu remplir le truc aussi. Effectivement, le format de l'album est super intéressant pour beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points positifs sur l'album. Alors personnellement, je lui porte vraiment beaucoup d'amour à ce format-là, mais j'ai grandi aussi avec. Et d'un autre côté, forcément, les nouvelles générations grandissent moins avec ce format d'album. Mais il permet ça du coup aussi en live d'aller, du coup, de faire des lives, de faire des concerts et du coup d'avoir peut-être des titres qui sont justement, qui vont être un petit peu plus faibles, certains entre guillemets, et du coup qui vont faire briller du coup encore plus le hit. Quand du coup le chanteur, la chanteuse, que ce soit Angèle par exemple ou d'autres artistes, ils vont faire leur hit, et du coup là effectivement ça va créer une vraie émotion, quelque chose quoi de spécial. Mais d'un autre côté aussi, bah, quand on écoute l'album, certains albums, je vais prendre l'exemple de Muse par exemple ici, qui est un groupe que j'aime quand même beaucoup, leur dernier album en tout cas maintenant c'est du fanservice, un morceau pour la radio, un truc un petit peu plus où on tente des trucs et puis voilà. Et puis ça s'arrête là.
Et puis il y a l'éternel trope avec Muse, c'est que leur nouveau morceau est le morceau le plus rock de leur carrière. Ça, c'est un truc qui revient au moins à chaque fois sur les trois derniers albums. Quasiment.
Oui, souvent. Et c'est un apanage à des groupes de rock et même des métal. C'est l'album le plus lourd qu'on ait jamais composé. Alors qu'en fait, le précédent était déjà comme il faut. Ouais, et il y a ce côté où on veut montrer qu'on va toujours plus loin, alors qu'en fait, on fait toujours la même chose. Donc il y a aussi ce problème avec le format d'album, alors que du coup le format du single qu'on retrouve plus du coup dans la culture maintenant rap, où on va sortir un bon single, on va parler après Alexis parle un peu plus longuement des différents types de formats qui existent et qui sont venus un peu contrebalancer ça, notamment dans la culture punk et tout, et dans le rap notamment, donc du coup avec souvent des fois des EP ou alors du coup des compiles, mixtapes notamment, ce genre de choses. Et donc ça permet du coup d'avoir un single en fait, surtout qui permet d'être en haut des charts. C'est pour ça que je propose là de s'écouter un petit morceau, justement un single qui est d'ailleurs dans le générique, hein, et qui pour moi...
Les plus affûtés reconnaîtront le morceau du générique.
Vraiment ce côté-là où c'est efficace. Moi j'ai vraiment ce syndrome avec le rap où bah, les albums je les écoute pas la plupart du temps, je vais surtout écouter quelques morceaux. Parce que c'est souvent trop long, t'as 20 morceaux avec 12 feats, pour beaucoup en tout cas, pas tous. Rares sont les albums de rap qui sont vraiment pour moi aboutis, où je vais écouter de A à Z en me disant ah ouais, effectivement il y a un truc, il y a un concept et tout. Là du coup l'artiste que je vais mettre qui s'appelle Ocean Wisdom avec le Soul Reviving, voilà, c'est typique d'un artiste que j'aime quand même beaucoup, pour des Eminem anglais hein, pour la petite info, voilà, et fait vraiment beaucoup et quelques hits que j'adore, et puis d'autres morceaux qui sont sympas mais qui restent sans plus, ou en tout cas qui viennent pour moi faire office de juste un peu de remplissage pour pouvoir justement faire du live ou ce genre de choses. Et du coup je propose quand même qu'on s'écoute cet excellent single de Ocean Wisdom, Reviving. Qu'en penses-tu Alexis?
Oui, bah, je vais juste ajouter sur les albums, c'est que parfois on a peut-être cette sensation que l'album est un passage un peu trop obligé dans la carrière d'un groupe et qu'on a peut-être plaqué un format qui était roi et qui parfois ne colle pas forcément à ce dont tous les artistes vont, eux, construire leur carrière musicale, leur musique, et dans l'hip-hop, je trouve que c'est assez flagrant. Pas dire qu'il y a évidemment des quantités d'albums excellents de hip-hop, hein, bien évidemment, mais parfois, il y a peut-être cette sensation que, quand on va mettre en avant tout ce qu'on met en avant, des battles de rap, des freestyles, choses comme ça, est-ce que c'est vraiment des pratiques de l'art qui sont compatibles avec le format album? C'est pas forcément le cas. Cette espèce d'adéquation forcée, de passage obligé dans la carrière d'un grand artiste, pour être un grand artiste, il faut faire de bons albums, et que peut-être que c'est peut-être pas si utile que ça, mais en tout cas, l'industrie, elle aime bien, et aussi les auditeurs, ça sert de point de repère pour les auditeurs, le bon album, c'est toujours ça. On donne cet exemple-là, il y a peut-on parler entre nous, que d'Indila, qui a fait quelques singles qui ont plus de 900 millions de vues, si je dis pas de bêtises, sur YouTube.
Ou un milliard sur...
Voilà, c'est ça, et bah, elle a quand même un album, alors que pourtant, en fait, je sais pas, entre les gens qui vont peut-être être fans des morceaux, les gens qui ont écouté l'album complet, à mon avis, il y a un delta assez colossal. Hein.
Oui, souvent.
Voilà, là, je trouve que c'est vraiment un exemple de ça, quoi. Et peut-être que sur l'album Indie Lad, c'est sûrement d'ailleurs pas très très intéressant.
Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais avant qu'on mette finalement le morceau que je voulais proposer, il y a un autre groupe que moi j'aime bien qui s'appelle Low Leaves, qui fait du rock, grunge, machin. Et pareil, du coup, ils sortent un peu de ce carcan-là parce qu'ils ont sorti que des petits EP, des formats très courts, ou en tout cas des singles. Et à chaque fois, évidemment, ils font mouche, ça marche hyper bien. Et pas d'album. Et ils essayent un peu de contrecarrer ça, je pense, d'une certaine façon. Ils ont peut-être des morceaux déjà écrits d'avance, mais ils essayent certainement de les peaufiner derrière pour avoir vraiment le titre à chaque fois, le hit. Et ça marche effectivement quasi, franchement, pratiquement à chaque fois. Et ils ont toujours pas sorti d'album, alors que pourtant ils sont bien à 3 à 4 EP. Donc ce qui fait, au final, si on compile un album, puisqu'en plus il y a une évolution dans le son, mais ça reste une certaine cohérence, qu'on voit une nouvelle façon aussi de, d'amener la création de la musique. Et aussi c'est moins gourmand en termes de temps, en fait, de faire un EP, en fait. Et c'est moins gourmand en termes d'argent aussi pour les... Pour les artistes, hein, faut se rendre compte de ça. Il y a aussi le coût derrière d'un album. On n'est plus accompagné comme dans les années 70-80 par les labels qui payaient tout, les tournées, etc. Et maintenant, où, là où faut, du coup, faut essayer même de s'autoproduire.
Enfin, souvent, faut proposer à un label un produit déjà fini, finalement.
C'est ça, c'est ça. Et on arrive à ça où, bah, en fait, on va essayer de faire des formats plus courts parce que moins de moyens. Et en plus, il y a plus de monde, donc du coup, il faut faire des titres plus forts, se démarquer. Enfin, voilà, c'est aussi, il y a aussi ce côté-là, on pourrait parler. C'est pour ça que le single, en tout cas, qui revient, hein, parce que comme je l'ai dit au début, le format album, il est pas arrivé tout de suite. Et avant, on avait des singles déjà, en fait. Et depuis, en fait, avec notamment le streaming, on y reviendra après, ça sera la prochaine partie, la suite, en tout cas. Le format du single est vraiment revenu encore plus en force qu'avant. Il l'était déjà avant, dans les 90, on pourrait parler de MTV, par exemple, ce genre de choses. Mais voilà, du coup, il y a vraiment encore plus avec le streaming, une mise en avant du single, etc. Et du coup, là, je propose cette fois-ci qu'on écoute vraiment
l'écoute véritablement,
Ocean
oui.
Wisdom, petit morceau, petit kiff personnel, toujours à écouter. Ça rappe vite, comme j'aime bien, c'est bien stupide, c'est parti.
Ça débite,
c'est parti.
Ça découpe la prod, comme diraient les jeunes.
Yo, manifested this one man come through in all black, I just nicked something limelight rubber, the limelight teeth for them man are busy running on the reefer, they never got the memo that a fellow from the south spitting ether, so either they deaf or they dumb, if neither they mocking it, they rock inside a city for the feature, they gimmicky, they relevant for now and no longevity, the remedy for that is how you body rhythm readily, so whoa, I ain't gotta study how another brother flow, listen to a legend, make a better rapper grow, better for competitors than living with a pro, swinging with a donny, you're swinging without a G, man's really in a hurry to build up another lead, really in a novelty, looking at the esteem, considering every challenge resulting in a defeat, they beat the beat, I eat the beat, then beat the beat, I cheat the beat, right, I beat the beat, boss, betray me and die, you be the bold cat, you're in between fight, running a mark about to be shutting down, she's sucking and satin and then she ducking out, I done a show with the baddest man about, I turn a gunner into a daffodil, the man they're holding L's, the man ain't holding Z's, and that's fact, them man I already tell him I'm too much for them try rev, like why you try rev, about revving my face on a Sunday till I hit man with an awkward leg, awkward elbow, top of the head like boom, bow, put him to bed, like Joe Rogan said a man like me ain't seen that in a thousand fights, man got clocked with a vibrant right and a hesitant left, is a man still alive, watch how I jump on a tune with Dill, and a real deal, them man all hype, got a man feeling all diddy and white, no diddy, no dally, I'm thick out the light, why you try rev, why you try rev, why you try rev, why you try rev, about revving my face on a Sunday till I hit man with an awkward leg, awkward elbow, top of the head like boom, bow, put him to bed. Why you try rev?
How you gonna come and try rev? How you gonna act like I'm not ahead and you're stuck on the red? You're easily red like you're playing dead. I'm a rebel, I'm ready whenever my level is heavy. You're light as a feather, I beg. Begging, no, I'm a celeb, but I'm dreading. I'll put you to bed for some shit that you should've just thought, but you said, cause you're a pleb. Only concern should be getting is bread. Are you pulling my leg? Gone in the head. Copper and lead, he dropped and he bled. Go get a doctor, I sent for the med. You should've fled. Dilly departed. Look what you got and you started. You bumper clock, should have been smart, but you were retarded instead. Use your brain, don't lose your lane. Maintain, refrain from saying my name, and I'll do the same. And everything will be right as rain. Don't go against the grain, cause I could get a little off the chain. Gassed up on my own, no shame, like I'm off the mains. They're looking at me like I'm at the wrong stop, and I've got no ticket. I just hop the train. What have I got to gain? Already gained the fame, already caught the range. I come through like Doctor Strange. Tell a lame, miss me with the games, I don't entertain. Cocaine flow in your vein, but I bring the pain. Give me the long story short, don't make me strain, so I can see it all clear and plain. I'm not a plain Jane, I got Jane insane, hopping on the cane. She give me top, then I rock it again. She give me bright and dome, I'm up bright and early with a brighter bone. Even when I'm in Rome, I feel right at home. The beat got me in a tighter zone. I could've jumped on your height, but I like my own. And I'm kinda grown, I heard Ocean Wisdom said somebody better get that boy on the phone. Let him do what he does, don't change one tone, just leave him alone.
Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? About revving my face on a Sunday till I hit man with an awkward leg, awkward elbow, top of the head like boom, bow, put him to bed. Why you try rev? 18, I was 18 with a break beat lately, man, I made P from a G. Hopefully, man, I wrote down a couple notes on me. Oh, did he not? He don't know about me. Okay, low kiddie, man, and note on me. And then globally find them and roll for me. Eyes on the beat, okay, man, and one show for me. They're a dope buddy, man, the way they facilitate what I do, bait and an antidote for me. We've been high road for me, and I didn't ride out on a waste, man, wave. It's a wild world, buddy, you should probably learn from me. I'll be showing you the ropes where you're trying to just rave. Why help buddies? Yeah, I'm not that gully when you could be summoning the best of the
greats. No sales dummy, that is not that funny when you got to rely on the old for the cake. Still fuck it, then my phone, I get a day away. I get up and I made a paper, then I get the pressing on a puss. Luckily, the way they gravitate to what I'm doing, got them reaching in their pocket, dedicated to the cause. Cause they feel a man, I follow a man, I run around the city like an animal, I put them on a pause. Cause their man, them one is raw. As they thought they was, I'm on a Wu Tang vibe on tour. Better spliff and let me talk. I ain't fiddling with port, licking on a line, ripping something broad, that's savagery. Man, been on it since Mark and Valerie. This bar cost man calories, smashing the tie. Eubank swag, get a bang in the mouth. Junior swag, hold 25 more. Wiz be a fan of just having it out. I run up a tab, I told him to swap.
Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? About revving my face on a Sunday till I hit man with an awkward leg, awkward elbow, top of the head, like boom, bow, put him to bed. Why you try rev?
Et donc nous venons d'écouter
Reviving.
Et donc oui, donc ce single est aussi, je me disais, on disait c'est un très bon exemple parce qu'il est sorti peut-être un an et demi avant l'album en lui-même.
Oui, oui.
Et on voit bien qu'il y a voilà, il y a comme un temps de latence entre le single est là, il y a une hype, un engouement autour de la musique de ce charmant monsieur, et il faut quand même la concrétiser d'une certaine façon, et ce sera un album qui est correct, qui, si je dis pas de bêtises, a quand même eu un petit engouement, mais bon, comparé à ce que le single aurait pu laisser prévoir, n'était pas si...
Comparé à d'autres singles, en fait, il y a quelques, comme je le disais, quelques titres forts, mais sur la vingtaine de titres, comme souvent dans les albums de rap, c'est pas une mauvaise critique en soi, je dis pas ça pour dire que le rap c'est nul, non, pas du tout.
Je dirais plus que c'est le cas parce que le rap, peut-être, comme c'est ce qui est le plus consommé à l'heure actuelle, il est peut-être plus soumis à des impératifs entre guillemets commerciaux et capitalistes,
c'est ça,
que d'autres, et que du coup ce côté il faut à tout prix faire l'album d'une heure pour marquer les esprits, il est quand même là, et ce qui accouche pas forcément au final d'œuvres excellentes, même si après il y a des disques absolument exceptionnels, hein. On prend les Kendrick Lamar, des Danny Brown, des trucs géniaux, hein, c'est pas le souci.
Exactement, et oui, il y a des albums qui sont très très chouettes, et en fait du coup c'est pour ça que même des fois ils font passer ça pour des c'est comme ça, c'est à la mode les et on va venir du coup aux différents genres que tu vas nous évoquer juste après, notamment du coup la mixtape, en fait, qui fait enfin office d'album mais de façon un petit peu détournée. On va dire non mais c'est une mixtape qui a été composée alors qu'en fait ça fait un album complet parce que comme les morceaux sont sortis sur des périodes très courtes, il y a des périodes d'attente très courtes entre les sorties des morceaux, en réalité bah du coup la mixtape fait que il y a une certaine cohérence, même s'il y a des variations parce que il y en a qui proposent des choses un peu plus expérimentales et tout, mais souvent on retrouve comme une vraie cohérence, et donc ça fait finalement un album en fait avec 10-15 titres, des feats, des machins, etc.
Puis il y a un peu un argument aussi d'authenticité avec la mixtape, où ça fait plus hip-hop de sortir une mixtape que de sortir un album, il y a aussi ce côté-là je pense, alors que des fois c'est pas forcément...
Oui, tandis que l'album on le rattacherait quand même plus à la pop, et surtout au rock, et au métal, tandis que voilà du coup, juste pour deux mots, les formats plus courts sont plus appréciés par tout ce qui est frange des musiques extrêmes type punk et grindcore notamment et consorts, notamment les splits, où en gros le principe du split, on va du coup avoir un artiste qui fait des titres de son côté, un autre artiste qui fait des titres de son côté, et ils se réunissent en fait pour produire l'album ensemble. Il y a même des groupes qui sont spécialisés là-dedans, notamment le groupe de grindcore belge du coup
Agathocles,
incontournable évidemment, un autre groupe japonais dont j'ai oublié le nom, que j'adore pourtant,
une Ligue Rives peut-être.
Oui, c'était une Ligue Rives, merci. Et du coup, voilà, il y a des groupes qui sont un peu spécialisés dedans. On retrouve ça dans le screamo, dans le punk, voilà, tous ces genres-là qu'on vous a déjà évoqués, moult. Quels autres formats existent-ils, Alexis?
Donc, et bien entendu, les EP. Donc, les EP, souvent, ça va être 3-4 titres. Alors, il faut bien préciser qu'il n'y a pas forcément de durée fixe, idéale, de ce qu'est un EP, ce qu'est un album, évidemment non. Et il y a aussi une dimension de choix de la part de l'artiste de considérer que telle sortie va être un EP, tel autre va être un album. Il y a aussi une part de choix, parce que l'EP peut être une sorte de crash test, peut-être aussi tout simplement un début pour lancer la carrière, mais en règle générale ça va être 3-4 titres de moins d'une demi-heure, et ça va être un court moment. Donc soit c'est pour que le groupe rappelle au monde qu'il existe, donc voilà, ça fait peut-être 5 ans qu'il n'a pas sorti d'album, il sort un court EP, ou alors c'est des musiciens qui vont débuter et qui vont sortir un EP, parce qu'il y a bien entendu derrière une idée de coût, c'est que des CD qui durent moins longtemps, voilà,
ouais.
Et ceci par exemple pour ça que la cassette, par exemple, qu'on pourrait se dire mais la cassette c'est complètement daté, ça n'a plus aucun
obsolète,
intérêt.
Obsolète la cassette.
Peut-être vous l'écoutez 40 fois, c'est mort. Pour conserver le son, c'est pourri. Il y a plein d'artefacts avec la bande magnétique, c'est vraiment nul. Bah oui, mais c'est le moins cher à produire en fait. Donc c'est-à-dire que même, voilà, même si effectivement il y a plein d'arguments qui montrent que la cassette c'est pas très bien, sauf si vous avez un plaisir pour le son un peu voilà, soyeux quand on a la bande et tout, vous aimez mettre vos doigts dans des petits trous pour la tourner à chaque fois, si vous avez ces envies-là, ce qui est votre problème, cela vous regarde, mais dans les faits, c'est que c'est quand même le moins cher. Donc les groupes l'utiliseront toujours. ça continuera. Après, il y a toujours ce côté à peu près un peu vintage, encore on revient sur l'idée d'authenticité, c'est que avoir des cassettes, si on est un passionné, ça fait pas que ça fait bien, mais on aime bien en avoir quand même. Oui, j'en ai une vingtaine, je pense que j'en ai aussi une vingtaine.
Il y a l'aspect aussi, ça pourrait être un sujet encore à part entière, l'aspect collectionniste aussi, hein, notamment dans certaines franges, et on reprend les franges du coup qu'on aime bien, qui sont comme, et qu'on retrouve aussi quand même dans d'autres franges, donc, mais notamment déjà surtout dans le rock de façon globale, donc j'entends le punk évidemment, et puis le metal, où le metal sera plus tourné vers le CD, le disque souvent, le digipack, le bon digipack avec le drapeau dedans, le poster, tout ce que tu veux, machin, les goodies, tandis que le punk ira plus quand même vers le vinyle souvent, ou le rap aussi. Il y a quand même une bonne tendance, et surtout que le format le plus apprécié, parce que ça fait, il y a ce côté où si on se sent c'est l'objet, c'est le grand format, ça fait une belle image, une belle pochette, on peut lire les paroles.
Il y a aussi l'idée
paroles.
D'être à la hauteur de son amour pour le groupe aussi, hein, c'est il y a ça. Ce côté-là aussi. Hein.
Genre du coup de musique, on va retrouver du coup effectivement différents formats qui sont rattachés un peu plus, et du coup voilà, il y a d'autres formats, je crois. Tu voulais parler peut-être des collabs. Bah
alors après, pour revenir vite fait sur les splits, on a dit que c'était deux groupes, mais ça, il y a des splits freeway, des splits four ways, il y a plus de 3-4 groupes qui peuvent faire,
oui,
un
c'est
split
vrai,
ça,
c'est
ça existe,
oui,
très bien,
bien
aussi,
bien rebondi.
Et après, juste, alors c'est plus une curiosité anecdotique, Season of Mist, au début de sa carrière, avait lancé un format qui est une sorte de split, où ils appelaient ça des wars, parce qu'évidemment c'était très black metal et c'est toujours été.
Alors, Season of Mist, c'est quoi comme label pour
préciser? Oui, Season of Mist, c'est un des plus gros labels de metal français, c'est pas le plus gros label de metal français, je pense, qui a souvent été spécialisé metal extrême, on va dire, parce qu'ils ont signé les derniers Mayhem, par exemple, c'est eux qu'on pu les faire, même si après ils ont une sorte de sous-branche, Season of Mist activiste, où ils mettent tout leur black metal dedans. Et en gros, donc au début de leur carrière, ils avaient lancé un format qu'ils appelaient ça les wars, volume 1, 2, 3, parce qu'il n'y en a eu que 3, mais je trouvais le concept assez amusant. Donc il y avait des groupes comme Anata, Unoceans, donc Anata c'est un groupe de Death Technique, Unoceans c'est un groupe de black symphonique, on va dire, et Seth aussi, qui est un groupe de black metal français, qui avait participé, et souvent c'était avec des groupes encore beaucoup plus petits qu'eux, souvent du black metal. Et le concept derrière, c'était de faire donc un split, mais divisé en plusieurs parties, où il y avait chaque groupe proposait un morceau, ensuite chaque groupe reprenait un morceau de l'autre groupe, et ensuite chaque groupe faisait une cover d'un même morceau. Donc par exemple, il y en avait un où c'était une cover de Depeche Mode, par exemple, alors que c'était deux groupes de black metal, donc ce qui était quand même assez intéressant. Et c'est un truc que là, je trouve ça assez amusant, comme quoi, voilà, on pourrait très bien. C'est pour ça, c'est pour dire que les formats qui sont aujourd'hui très institués comme ça, qui nous semblent aller de soi par eux-mêmes, au fond, ça aurait très bien pu être découpé très différemment.
Non, surtout que si on reprend l'exemple des EP, hein, pour le coup, pour rebondir un peu dessus, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est que, comme tu disais, c'est aussi une question de définition, parce que si on prend un groupe de stoner, sludge, donc où un EP, ça peut faire 40 minutes, mais il n'y a que 4 titres, tandis qu'un EP de frange extrême, le grindcore et tout, il peut y avoir 20 titres et ça dure 5 minutes ou 10 minutes, quoi. Selon le genre de la musique, le style, en fait, le format varie aussi. Il y a des espèces d'oscillations comme ça entre les différents formats.
Et comme on a dit, voilà, certains genres de musique vont plus aller vers certains formats parce que c'est soit souvent plus moins cher à produire, plus simple à produire. Voilà. Alors ensuite, on peut aussi parler d'un autre genre qui, cette fois-ci, est pas du tout. Si là, à chaque fois, les EP, tout ça, c'est quand même lié un peu aussi aux limitations matérielles, vous allez plus facilement faire. Produire un EP sur une cassette, ça aura plus de sens, par exemple. Là, le format dont on va parler à présent, il l'est beaucoup moins, puisqu'il s'agit donc de la collaboration. Donc la collaboration, là, on est purement sur un format d'enregistrement, c'est quand deux groupes se rencontrent et au lieu de simplement composer chacun de leur côté, ils vont composer cette fois-ci ensemble et proposer souvent un album, même si ça peut être parfois des EP aussi, une sorte de fusion idéale, enfin présentée comme idéale, de leur sonorité,
de leurs
univers différents, quoi. Alors, donc je peux par exemple vous proposer comme collaboration, donc Too et The Body. Donc alors c'est marrant parce que c'est deux groupes collaboration, les deux ont, et d'ailleurs c'est celle-là, donc celle que je vais vous proposer, You Whom I Always Hated, qui est sortie en 2015, c'est un peu celle qui a lancé cette façon de fonctionner de la part des deux groupes. C'est qu'il y en a peut-être, The Body, il y en a peut-être juste une seule avant, une année avant, et après les deux vont faire 4-5, parce qu'elle est sortie en 2015, 4-5 ensuite dans les années suivantes. D'ailleurs, avec cette collaboration-là que j'ai découvert Too, qui aujourd'hui un de mes groupes de métal préférés, d'ailleurs, tout simplement, ils en ont fait ensuite d'autres, avec, pour citer d'autres groupes avec qui ils ont collaboré, il y a Full of Fell, donc c'est un groupe de grindcore, metalcore, crust, on va dire.
Oui, ça, c'est
crust au début, crust metalcore au début plutôt. Et puis après ils ont rajouté un peu de noise dans leur soupe.
Oui, c'est un peu Power Violence même au début et tout. Et puis après, ouais, ils ont viré un peu noise. Ils ont fait aussi des collabs avec Merzbow notamment.
Il y a aussi donc Emma Ruff Randall, donc c'est ça avec Too qui a fait une collaboration avec elle. Bah, Emma Ruff Randall, c'est de l'espèce de folk, ethereal wave, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, mais un peu rock, un peu
oui,
metal
sur
les bords.
Il y a des guitares, oui, il y a peut-être un côté un peu drone, un petit peu peut-être,
ouais,
aussi.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Too avait fait c'était il y a 2 ans, je crois, Myopia avec Mizmore.
Oui, c'est ça, un groupe de black metal.
Du coup, c'est ce qui donnait une espèce de sludge funeral doom, on peut dire ça. Enfin, ouais, l'exercice.
Avec des aspérités black metal, et c'était du coup beaucoup, super intéressant, justement. C'est là où ça a fait ressortir le meilleur des deux groupes. En tout cas, enfin, Too, il y avait une base solide, mais Mizmore, que j'accrochais moi, bah du coup dans cette collab je l'ai trouvé vraiment incroyable quoi. Ça faisait ressortir beaucoup mieux ça. Et du coup l'aspect de la collab permet d'amener ça en fait encore du coup.
Vraiment une véritable osmose des deux univers finalement, parce que par exemple pour reprendre l'exemple de The Body et tout, vous avez un peu l'épaisseur distance, la haine presque sublimée de tout, et puis alors que c'est vraiment l'électronique industrielle crasseuse et décrépite de The Body qui vraiment se mélange entre les deux. Alors qu'à première vue, quand même à une base de sludge, c'est les deux en grande partie, ils sont quand même assez différents, parce que The Body peut être beaucoup plus expérimenté au niveau des sonorités, là où tout, il y a tout ce côté où ça va être très massif, en même temps ils vont réussir à toujours amener un jeu sur les harmonies, sur les mélodies en plus.
Et tu le vends ça si bien que j'ai bien envie de maintenant d'écouter.
Écouter le morceau qui s'appelle Terrible Lie.
Et donc du coup on vient d'écouter cette magnifique collab entre Too et The Body. La réflexion qu'on se fait aussi autour de ça, des collabs notamment en live, ça va donner une vraie immersion aussi. Au-delà de l'écoute studio, l'écoute du CD, c'est en live, ça va amener aussi, bah, comme, comme on se le disait aussi, des tournées spécifiques, spéciales, comme il y a eu une tournée, par exemple, Converge, du coup, avec Jesse Wolfe, qui est passé à Reims, hein, pour ceux qui ont connu ça. On peut, du coup, noter une perte de vitesse globale du format physique, hein, c'est ce qu'on disait, enfin, c'est le, l'album semble en perte de vitesse, parce que les singles prennent plus de place dans les charts, ou en tout cas sur les formats numériques.
Tout ce qui est, surtout ce qui est cette histoire de perte de vitesse globale du format physique, on va peut-être aller chercher un peu les chiffres, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de peut-être de relativiser certaines choses, de peut-être aller interroger certaines idées reçues qu'on peut avoir. Et donc, en gros, le moment où... alors là, je vais citer le site de l'INSEE, je vais juste vous lire la phrase, je pense qu'elle marche très bien toute seule. Au cours des années 2000, le chiffre d'affaires des ventes physiques de musique enregistrée, CD, vinyle, a amorcé une baisse qui n'a pas cessé depuis. Il se situe à 314 millions d'euros en 2018, contre 1144 millions d'euros 10 ans plus tôt, en 2007. Alors après, oui, alors l'INSEE, après, à mon avis, fait un petit un truc que j'aime pas forcément, c'est qu'elle elle impute cette baisse en partie à cause du téléchargement illégal. Et ça, c'est une lecture à laquelle je suis personnellement en complet désaccord, parce que je pense que c'est trop voir ça par le biais du manque à gagner pour les labels et les entreprises, alors qu'en fait, bah, si t'as pas l'argent, t'aurais pas acheté dans tous les cas, peu importe la façon dont c'était distribué. Par contre, on pourrait croire, du coup, c'est une terrible descente, plus personne n'achète de musique, c'est terrible, le monde s'écroule, tout le monde écoute ça en dématérialisé, c'est terrible, c'est terrifiant. Eh bien, pas vraiment, parce que si on consulte, du coup, le Syndicat National des Éditions Phonographiques...
La SNEP,
on va dire la SNEP, on l'a dit une fois, qui est quand même un très, je trouve que c'est un très bel acronyme, personnellement, mais voilà. Ouais. Donc, ils avaient fait un petit dossier sur l'état de la production sonore en 2021, et eux, voilà, eux font le constat, alors c'est un constat qui est évidemment chiffré, il y a des stats, hein, c'est pas, ça sort pas d'un chapeau. Mais... Et en gros, donc c'était pour 2021, d'ailleurs, tout ce qu'on pourrait penser, le marché physique, hein, de vente physique, de vinyle, de CD, de tout ce que vous voulez, il est en hausse constante depuis 5 années, même si, bien sûr, il y a quand même un boom de services de stream qui, aujourd'hui, occupe une plus large place, c'est sûr, mais il y a quand même cette hausse constante des formats physiques. Et surtout, ce qu'il faut bien se dire, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, les deux sont pas du tout mutuellement excluants. C'est pas, vous avez pas le vieux qui adore ses LP dans sa chambre et le jeune inconséquent qui consomme la musique sans vouloir soutenir les artistes. En général, cette vision-là, elle est tout simplement fausse, puisqu'en fait, c'est quelque chose comme plus de 39% des gens qui disent que s'ils consomment la musique, certes en streaming, ils souscrivent à des services de streaming comme Spotify et compagnie. Pour autant, c'est pas pour rien qu'ils vont ne pas être attachés au format vinyle en lui-même. Alors moi je dis LP parce que c'est plus rapide, mais il y a une petite... Voilà, du coup, voilà, c'est vraiment cette diversité, cette mixité des usages. Alors oui, effectivement, c'est vrai que le CD, même s'il se maintient, le vinyle, lui, est en hausse, on va dire, à peu près constante, puisqu'il occupe aujourd'hui, donc en 2021, selon la synthèse, 35% des notes des ventes physiques. Comme voilà, il ne faut pas que ça masque que c'est tout le secteur qui, finalement, se porte pas si mal. Alors, selon moi, la synthèse fait un peu, mais bon, c'est normal vu d'où il parle, hein, une espèce de confusion entre santé économique d'un secteur et habitude de consommation des gens. Pour moi, il y a une espèce de confusion des deux, parce que là, par exemple, je vous parle de pourcentage des compagnies, je ne parle pas de pourcentage d'unités vendues, je parle de pourcentage d'argent. Donc, on peut, voilà, il y a quand même le prix des CD qui a beaucoup évolué au cours du temps, donc il faudrait, malheureusement, je n'ai pas accès à ces chiffres-là, il faudrait peut-être relativiser ce constat de bonne santé. En nombre d'unités vendues, ça, j'ai pas malheureusement pas les chiffres.
Alors si, on peut voir, il y a eu des baisses. Je crois que j'avais vu, c'était une étude sur Drake, notamment, je crois que ça doit être ça, qui avait fait un des pires départs, 19 000 albums vendus sur la première semaine de sa sortie, comparé en fait à Racine Gueule, qui avait dépassé largement les millions de vues à fond sur YouTube, en fait. Et c'est là où l'aspect streaming a pris le pas quand même sur l'aspect physique, parce qu'en fait, le streaming permet une multiplicité des possibilités d'écoute.
De toute façon, il y a un argument économique massue. Hein. Enfin, pour le prix d'un CD, tu peux écouter toute la musique du monde. Ça, c'est un argument que tu ne pourras pas changer, en fait.
Exactement. Et tu peux l'avoir quasiment gratuitement, via YouTube notamment. Enfin, ça reste quand même la plus grosse plateforme de streaming au monde. Au-dessus de même Spotify et toutes les autres plateformes de streaming.
Non, parce qu'il y a tout sur YouTube.
Parce qu'il y a tout sur YouTube, en fait. Et notamment, ça permet d'amener cette idée-là. C'est qu'en fait, le streaming vidéo est encore aussi très présent. Et voilà, mais du coup, ça a permis aussi, ce qui est bien, en tout cas, ce que je trouve qui est une bonne chose, c'est que ça a augmenté le temps d'écoute. C'est-à-dire que si on prend dans les années 50, au début, dont on parlait au début de l'émission, c'était à peu près 8% de la population qui consacrait du temps à écouter de la musique. Bah, de toute façon, c'est toujours pareil, on revenait aux moyens, parce que acheter des platines vinyles, des vinyles, c'était quand même pas donné à toutes les bourses non plus. Et c'est seulement après, vers les années 70-80, que ça a pu peut-être se démocratiser un peu plus. Et notamment, les cultures punk ont amené cette démocratisation et un certain accès à la musique aussi.
Simplement, le temps de travail moyen des gens qui faisaient que ça avait moins de temps pour les loisirs, entre guillemets.
C'est ça. Voilà, après, à relativiser, on se rend peut-être qu'il faudrait quelqu'un qui a grandi dans ces années-là pour qu'il nous dise, bah non, finalement, c'était facile.
Oui, parce qu'on n'est pas, voilà, là, on parle d'enregistrement, mais peut-être que la musique était plus écoutée, vécue, oui. Par tradition orale, par voilà ça.
Oui,
par... a,
oui c'est ça.
J'ai pas de chiffres sur ça, mais.
Et notamment, encore une fois, la radio. Et donc, c'est pour ça que les radios ont quand même encore une place très importante, mine de rien, dans les écoutes. Que ça soit dans différents pays, l'Inde, l'Afrique du Sud, notamment. Enfin, voilà, il y a. Je vous conseille vraiment d'aller, on essaie de mettre les sources quand on partagera l'émission, mais d'aller voir du coup ces études-là qui sont plus faciles à lire actuellement pour revenir à ce que je disais au départ. 20, c'est environ 20 heures d'écoute en moyenne, voilà, hebdomadaire.
Ce qui personnellement je trouve vraiment que c'est énorme, moi j'aurais vraiment pensé deux fois moins facilement.
Voilà, par du coup, que ça soit aussi bien d'ailleurs, un peu toutes les tranches d'âge, et d'ailleurs qui est en hausse chez les 16-24 ans pour situer une tranche d'âge. Mais dans toutes les tranches d'âge, en fait, à peu près. Donc, pour dire que le streaming, on le diabolise un peu souvent, oui, la mort du CD, puis souvent dans les communautés un peu métal, on va dire oui, il faut acheter des CD, death metal et machin. Non, enfin, en fait, non. Faut se rendre compte que voilà, y a des différents modes du coup, d'écoute. Parler un peu du live, parce que du coup, le streaming vidéo est encore au-dessus du coup, du streaming du coup, audio, après en parler. Et donc, beaucoup de musiques sont écoutées soit via des vidéos, via des films notamment, ou des séries. Et donc, par exemple, pour citer ça, on revoit avec Netflix, hein, Stranger Things, pour ne citer que cette série-là.
Oui, je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est qu'actuellement, Internet a peut-être, entre guillemets, quasiment tué certains formats d'enregistrement, par exemple les compilations ou les lives. Aujourd'hui, vous allez voir, les compilations, ça va être des playlists sur Internet. Et les lives, comme tu parlais aujourd'hui, quasiment l'image va être immédiatement associée avec des chaînes YouTube qui sont spécialisées là-dedans. Donc, par exemple, ton KXP, et toi, je retiens jamais le nom, c'est 8.
856.
856,
voilà. On écoutera un extra juste après.
On écoutera juste après. Donc là, c'est plus axé sur du hardcore. Et voilà, on voit qu'il y a vraiment cette. Voilà, ces formats continuent d'exister d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas vraiment de mort ou de disparition. Ce serait faux de le penser comme ça. Ça existe toujours, mais ça s'adapte finalement aux moyens technologiques actuels, très simplement, quoi.
C'est ça, notamment du coup Stranger Things, c'est qu'il y a des morceaux qui sont remis au goût du jour sur notamment des plateformes comme TikTok. On peut penser du coup aux morceaux de Metallica notamment, ou d'autres morceaux, c'était Kate Bush je crois, c'est ça, dans Stranger Things avec Netflix. Et du coup, alors, ce qui était évidemment marrant à voir et que je trouve un peu ridicule, c'était tous les anciens en mode ah oui, et ça y est, redécouvre une culture et machin, et enfin bref, qui faisaient des critiques sur les jeunes, alors qu'en fait, la musique elle appartient à tout le monde, donc ça serait bien juste de laisser les jeunes écouter des musiques. En plus dans d'époques plus anciennes, et puis juste de les apprécier, quoi. Donc je trouve que c'est très chouette que ça amène, en fait, tout ça.
De toute façon, s'ils écoutent pas, c'est des cons de jeunes. S'ils l'écoutent, ils l'écoutent mal, et c'est aussi des cons de jeunes. C'est quand même parfois un peu le.
Oui, c'est ça. C'est un peu le propos qui. Voilà. Donc, du coup, voilà, des personnes comme TikTok peuvent amener aussi ce genre de choses intéressantes, et moi je trouve ça positif, en tout cas, cette redécouverte de certains titres, cette appropriation par des franges de la population plus jeune, quoi.
Et d'ailleurs, oui, voilà, pour TikTok, encore un autre chiffre, toujours sur cette même synthèse qu'on cite depuis tout à l'heure abusivement, c'est un Français sur quatre qui utilise TikTok aujourd'hui, donc cette image d'une application uniquement pour les collégiens, quoi, c'est assez faux, en fait. Hein. Après, c'est pas là où on est peut-être dans une position, on va dire, de défense, mais c'est plus les usages qu'on va défendre que les plateformes en elles-mêmes, ça faut bien faire le distinguo. C'est plus, voilà, c'est...
Oui, parce qu'effectivement...
Personnellement, moi, je pense que Spotify, dans les injonctions qu'il propose, dans le modèle économique qu'il propose aux artistes, est plutôt néfaste. Par contre, après, les gens, eux, ils se saisissent comme ils peuvent de ce qu'on leur propose. Et là, ils vont l'écouter, et là, ils vont plutôt diversifier la manière dont ils écoutent, quoi.
Oui, c'est ça, mais après, ça pose la problématique de l'écoute massive, de l'aspect massif, en fait, de l'écoute de la musique, comment ça apporte. Et donc, du coup, là, on revient donc à la question qu'on se posait au début, c'est... Comment, du coup, ça influence tout ça, en fait, tout ça est imbriqué, en fait, les formats de musique qu'on écoute et le temps qu'on y passe, comment ça influence, du coup, nos écoutes. Et on voit bien qu'en fait, c'est aussi riche et varié que les types de formats. Et c'est ça qui est super intéressant, parce qu'on aurait tendance à croire que, du coup, les jeunes, ils écoutent pas, de musique longue, machin, alors qu'en fait, c'est faux. Parce que je reviens à ce que je disais au tout début, c'était sur donc, les lives, et comme ça, ça permettrait d'écouter deux morceaux de live qu'on a choisi chacun, on y reviendra juste après.
On a tout simplement choisi nos lives préférés.
Oui, voilà. c'est ça. On a été, donc j'ai pris un truc stupide, et Alexis a pris un truc joli et intelligent. Tout ce qui est aspect vidéo a encore son impact sur l'écoute des musiques, les BO de films, tout ça, etc. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, la musique, l'écoute de la musique passe aussi par des biais détournés, donc que ce soit les séries, les films, à ce niveau-là. Et donc, du coup, bah, après, ça amène des fois au live d'artistes ou la réécoute de BO de films, Pirates des Caraïbes, pour ne citer que les plus écoutés, notamment Hans Zimmer et tous ces trucs-là. Voilà, donc, c'est typiquement, voilà, c'est ce qui on se rend compte que il y a une réexplosion comme d'écoute de la musique qui continue d'augmenter, j'ai l'impression, d'année en année quasiment. Bon, ça va stagner peut-être à un certain moment.
Ouais, j'irais plus qu'avant, la musique était peut-être un moment privilégié, en tout cas la musique sur, d'écoute sur un support, hein, parce que du coup c'est quand même ce qu'implique le format, était peut-être un moment privilégié, alors qu'aujourd'hui, du fait de la dématérialisation et du fait qu'on peut avoir toute la musique du monde dans sa poche, pour parler très grossièrement, bah, du coup elle se glisse beaucoup plus dans le quotidien et on peut l'écouter finalement de la seconde à laquelle on se réveille à la seconde à laquelle on s'endort, parce que je connais, je pense toi aussi, connais plein de gens qui vont s'endormir avec de la musique, des choses comme ça.
C'est ça.
Donc,
c'est
vraiment
ça.
La musique s'insère dans chaque aspect et chaque moment du quotidien,
c'est ça.
D'où l'explosion du temps d'écoute qu'on peut observer.
Qu'on l'écoute sous la douche, qu'on l'écoute avant de dormir, même des fois en mangeant, ou alors au boulot pour se motiver, ou alors pour se réveiller le matin. Enfin, voilà, tout un tas de possibilités qui permettent d'écouter la musique aujourd'hui, grâce aux évolutions technologiques qui amènent donc du coup cette diversité.
On va embrayer sur nos lives préférés. Donc, bah, tu peux peut-être introduire ton délicieux Gulch.
Ah oui. Bah, moi, j'ai choisi du coup un live de Gulch, qui est un de mes groupes de punk hardcore préférés. Donc, grossièrement, c'est pas que ça, mais dans l'idée, c'est ça. Et c'est surtout l'énergie qui dégage du groupe. Voilà, c'est un live à aussi à regarder, en fait, parce qu'il y a une espèce d'énergie qui est vraiment dingue sur ce live.
Et autant du public que des membres du groupe.
D'ailleurs. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'épileptique, de cathartique, et qui fait que voilà, que j'aime énormément ce groupe, et en tout cas ce live est particulièrement, et le son est en plus nickel. FFX fait toujours des lives, je vous conseille si vous aimez un peu tout ce qui est punk machin, un peu hardcore, si vous commencez à vous y mettre, en tout cas allez voir, parce qu'il fait vraiment des lives vraiment très très cool, et il y a ce côté à la fois où proche du public, proche du groupe, et en même temps avec un son toujours quand même plutôt propre.
Et je pense des fois justement où internet peut permettre d'écouter de tout, mais on va peut-être s'éloigner de la dimension culturelle attachée à la musique, justement des chaînes de live comme ça, ils remettent la dimension culturelle, puisque là on voit vraiment des amateurs, des passionnés de cette musique, la vivre et tout, donc ça permet peut-être de s'approprier d'une plus en profondeur.
Quoi. On est moins dans la consommation du coup de la musique. Comme toi, tu voulais
oui, c'est vrai que oui, je voulais d'ailleurs évoquer. Alors, du coup, on n'écoutera jamais le morceau, du coup.
c'est ça.
Du coup,
ouais, en fait, on fait que parler.
Très rapidement, selon moi, on est, entre guillemets, même si je me rapproche de ton point de vue, je vais dire idéaliste, de cette idée qu'on ne devrait pas consommer la musique, mais l'apprécier. Mais selon moi, la musique se produisant, enfin, elle est produite, distribuée dans un système capitaliste, t'as pas le choix que de parler de consommation. Parce que, il y a plein de contraintes qui font que c'est pas par plaisir que les groupes de punk les produisent sur des cassettes, c'est parce qu'ils viennent d'une sorte de, souvent ils ont un certain statut économique, ils la produisent avec un matériel limité, c'est comme ça. Même si voilà, je comprends le rejet du terme, parce que oui, on a plus envie d'apprécier la musique que de la consommer, parce que bon, en soi, c'est entre guillemets en tant qu'auditeur se rabaisser, en un sens, ça veut dire que je consomme de la musique, c'est s'auto-rabaisser finalement. Mais que voilà, comme elle se produit dans ce système-là, on n'a pas le choix que d'en parler de cette façon-là, si du moins on veut vraiment comprendre pourquoi et comment elle l'est. Voilà.
Très bien, du coup, on va écouter ça, puis après on écoutera le tien pour terminer sur une musique plus douce. Et puis voilà, donc du coup, on citera 2-3 extrêmes d'enregistrement de musique aussi.
Oui, après on fera peut-être tout le temps en mode un peu anecdotique, on va dire.
Ouais, c'est anecdote, ça, pour terminer.
Pour clôturer.
Pour clôturer en mode un peu plus léger, voilà. Et du coup, Gulch. Fucking rock and roll gangsters back at home, and all you motherfuckers in here, we're from California, we're Gulch, motherfucker, thank you.
Et donc nous venons d'écouter un live de Gulch qui datait de 2019. Malheureusement, le groupe est splitté. Il était splitté en 2021.
2022, l'année 2022, dernière. Ils ont fait leur dernier concert en décembre, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai appris ça. J'étais évidemment super triste. Mais du coup,
on va continuer donc, du coup, sur ces lives intemporels pour nous. Quoi. Donc moi, j'ai choisi Space Ritual d'Of Queen qui est sorti en 73. Donc Of Queen, c'est finalement les patrons du space rock. À noter que sur le live là, il y a Lemmy qui fait la voix, alors que je n'aime pas trop Motorhead, mais sur ce live là, je le trouve vraiment incroyable de chez incroyable. Il était plus jeune aussi. Oui, c'est surtout le live qui permet une épaisseur que en 73 est selon moi inégalée, surtout pour du space rock. Mais bon, je vais pas épiloguer 106 ans dessus. On va l'écouter dès maintenant. Allez, c'est parti pour écouter. Donc le morceau « Time We Left This World Today » de Hawkwind.
We live on today.
Et nous venons d'écouter le live de Queen, Time We Left Is Small For Today, le nom du morceau sur le live Space Ritual de 73. Et à présent, pour conclure l'émission, en mode plus anecdotique, parce que c'est moins, voilà, moins dans l'analyse, donc les extrêmes au niveau du plus court et du plus long enregistrement possible, donc évidemment, alors vous allez voir, du coup, on va revenir du coup sur le format par moyen détourné. Donc le morceau le plus court de l'histoire de la musique, en tout cas selon le Guinness Book Record, parce qu'il a été homologué ce morceau-là, c'est tout simplement le You Suffer de Napalm Death. Napalm Death, c'est juste les aventures du grindcore avec Répulsion. Donc on va écouter You Suffer de Napalm Death, c'est parti. C'est terrible, c'est le genre de morceau que j'aime de tout mon cœur et que pourtant quand on le met, ça ne peut que provoquer un certain sentiment d'hilarité, mais bon, c'est comme ça, des choses qui arrivent. Et donc, à l'extrême opposé, le morceau le plus long de l'histoire de la musique, c'est un groupe qui s'appelle Bull of Heaven, qui en 2014 a sorti un album nommé 310, une suite de lettres grecques, avec des parenthèses 2 puissance 18 x 5 puissance 18 P multiplié par K multiplié par K multiplié par K. Voilà, c'était très intéressant, vous êtes très content de l'avoir entendu.
Ouais, c'est la meilleure information,
voilà.
Ça.
Voilà, voilà. Et le morceau dure 3,343 quintidécillions d'années. Pour se rendre compte ce que c'est, ça signifie 10 à la puissance 30. Donc 10 avec 30 zéros derrière, c'est bien plus grand que l'âge de l'univers, même bien plus long que la taille de l'univers observable. Enfin, c'est un chiffre qui est impossible, que notre esprit humain est impossible à prendre en compte. Formellement, ça fait des cours rythmiques de 1 à 2 secondes, dont le schéma varie, je sais pas par quel intervalle. Ce qui est plus amusant, c'est du coup quel format ils ont utilisé pour enregistrer un morceau aussi long. Eh bien, il n'y a pas vraiment de format proprement parlé. En fait, ils trichent entre guillemets. C'est un petit fichier zip qui doit faire 400 et quelques kilooctets. Vous le dézippez et vous vous rendez compte qu'il y en a 1000 dedans. Vous dézippez le premier, on a 1000 dedans, vous dissipez le premier d'un des premiers 1000, on a encore 1000 dedans, vous pouvez continuer comme ça, je ne l'ai pas fait, j'ai téléchargé le morceau mais je ne l'ai pas fait jusqu'au bout, et à la fin selon vous avez des toutes petites pistes, puisqu'en fait c'est une sorte d'algorithme un peu malin qui va générer le morceau complet comme ça, voilà. Et j'ai tout de même, parce qu'on pourrait se dire, ah bah c'est un groupe, c'est une blague, machin, alors ils ont plus de 310 albums, parce que le 310 au début c'était le nombre de l'album, tout simplement, et dans les 310 et quelques albums, ils ont, on va dire, des albums un peu de jazz fusion, space rock, jam, ils ont aussi des albums de drone ambiant, donc je trouve qu'au-delà de la blague, en réalité, quand on écoute leur musique un peu plus longuement, ils sont peut-être pas au niveau de groupes expérimentaux cultes comme Nurse With Wound, mais ils sont pas si loin derrière. Mais on va du coup s'écouter ce petit extrait de Bull of Heaven qui s'appelle Save Traitor, I Do Bring the Spider Love.
Et on vient d'écouter du coup un extrait d'un des albums du coup.
Des 310 albums. Des
310 albums de Bull of Heaven. Voilà. En plus, ce qu'on se disait, on se faisait la remarque juste en antenne à l'écoute, c'est que du morceau, c'est que en fait, le morceau il est audible en fait. Ça pourrait être un truc expérimental vraiment. Voilà. Et non, ça s'écoute, c'est pas non plus désagréable. Alors,
par contre, le truc de 1, quintetacillion là, c'est pas du tout audible. Là, ça fait tout.
Tout, tout. Tout.
Voilà. Et encore là, il y a une richesse harmonique parce qu'il y a ma voix.
J'espère que ça. Voilà. L'idée, c'est pas nécessairement, comme disait Alexis, on n'a pas cherché à défendre en fait les plateformes ou les labels ou quoi que ce soit. On a juste essayé de démontrer en fait que voilà, il y a une vraie, en tout cas, richesse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Une vraie richesse, en tout cas, sur toutes les formats d'écoute, les types d'écoute, et qu'en fait, il y a toujours donc une belle richesse. Voilà, c'est le mot de la fin, la richesse du coup d'écoute, et je pense que ce sera pas mal. Donc voilà, du coup, on se retrouve pour la prochaine, et puis à bientôt, et voilà, des bisous.